France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Opter pour une alimentation végétarienne, est-ce bon pour la santé? C'est notre thème ce matin, en s'appuyant sur de robustes études de scientifiques. Nous verrons quels sont les principaux bénéfices pour notre corps et notre cerveau, comment devenir végétarien sans carence. Cette alimentation végétale est-elle suffisamment diversifiée? Faut-il nécessairement se supplémenter en compléments alimentaires? Et puis nous vous proposerons également des recettes, des trucs et astuces pour rendre votre alimentation plus végétale, quoi qu'il en soit, gourmande et savoureuse. Et vous racontez-nous pourquoi vous avez choisi l'alimentation végétarienne, un peu, beaucoup, passionnément, ou alors êtes-vous devenu flexitarien, c'est-à-dire que vous limitez votre consommation de viande ou de poisson, au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Rébéi.
Eh bien, Michel Guérard, ben vous nous en avez fait des provisions. Qu'est-ce que vous nous proposez avec tout ça?
J'ai appelé ça le petit ragoût de spaghettis aux légumes. C'est du maïs, une poignée de petits concombres tournés. Nous mettrons également des champignons coupés en morceaux que nous ferons sauter. Nous mettrons des petits pois, une poignée de chou-fleur que l'on va jeter dans l'eau pour cuire, que nous ferons également sauter, là ils sont crus.
Mais bon, j'aime bien le chou-fleur.
Un peu de fond d'artichaut que nous couperons en morceaux, que nous ferons également sauter. Et puis, allons, pour lier ces spaghettis, faire un beurre, un mélange de beurre et de crème que nous allons monter, dans lequel nous mettrons des petites lanières de morilles séchées que j'ai fait tremper pour donner un parfum de champignons. Et puis aussi également un petit peu d'estragon là au vinaigre.
Bien.
Et puis voilà, c'est tout.
Extrait de La Grande Cocotte en 1977 avec le chef Michel Guérard et avec Marthe Mercadier. Bonjour Estherelle Payani.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culinaire et vous publiez chez Flammarion un très gros livre, très gourmand, La cuisine végétarienne, technique et recettes chez Flammarion. C'est très moderne ce qu'on vient d'entendre.
Ah mais Michel Guérard, il avait tout compris avant tout le monde. Il a vraiment révolutionné la cuisine française avec la cuisine légère. Et par exemple, je me souviens, il a une recette de blanquette de légumes, où il remplace la crème par une liaison de purée de carottes. C'est trop magique, j'adore.
Bonjour Angèle Ferremag.
Bonjour Ali.
Chef et autrice chez Marabout de Ma Cuisine Végétarienne, un abécédaire gourmand pour cuisiner légumes, herbes, graines et fruits à l'infini, sur ce qu'on vient d'entendre.
Bah, incroyable, la modernité 1977. C'est, on a envie de la faire ce midi.
Bonjour docteur Jérôme Bernard Pellet.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, cofondateur de l'Association des professionnels de santé pour une alimentation responsable. Et avec nous également le professeur Boris Ancel. Bonjour.
Bonjour Ali.
Endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris et chroniqueur dans cette émission. Alors d'abord un repère. Selon les enquêtes, entre 2 et 5% de la population française est concernée par l'alimentation végétarienne et végétalienne. J'ai été surpris par ce chiffre. Je pensais que ça concernait davantage de Français. Estherelle Payani, nous sommes loin de l'Inde, où près d'un tiers de la population est végétarienne, selon des chiffres de Statista.
On est aussi loin de l'Italie ou de l'Angleterre, où on est autour de 10% en fait. Mmh. Ben, c'est vrai que la France, on a un héritage culturel extrêmement marqué par la viande. Quand Sully, le ministre de Henri IV, a déclaré... labourage et pâturage sont les mamelles dont la France est nourrie, je crois. Tout était dit, là, en fait. Si on consomme autant de fromage, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de veaux et de vaches et de lait. Donc, c'est tout un cercle autour duquel on s'est constitué. Et puis, Henri IV, quand il a dit une poule au pot le dimanche, moi, je dis toujours, ce n'était que le dimanche, en fait. Le reste du temps, on mangeait autre chose.
En revanche, le flexitarisme progresse, c'est-à-dire on diminue sa consommation de viande ou de poisson. Ça, les chiffres le montre clairement, ça progresse dans notre pays.
Oui, c'est surtout la consommation de viande rouge qui baisse. Parfois, ça peut être au profit de la volaille. En tout cas, on observe une diversification des apports de la plupart des populations. Après, tout dépend de vos habitudes, de ce que vous avez envie de manger, et puis de votre culture alimentaire originelle.
Docteur Jérôme Bernard Pellet, petit rappel pédago pour commencer cette émission. Quelle est la différence entre un végétarien, un vegan, et un flexitarien. L'alimentation végétarienne d'abord ?
L'alimentation végétarienne, c'est aucune chair animale. Mmh. Donc par définition, le végétarien va s'abstenir de consommer de la viande rouge, de la volaille, mais aussi du poisson, des crustacés. Et c'est vraiment une définition scientifique, parce que dans les articles de la littérature internationale, vraiment c'est cette définition qui est choisie. Le végan...
Mais le végétarien peut consommer des œufs, du lait, du miel.
Exactement, le végétarien s'autorise la consommation de produits d'origine animale, que sont les dérivés des produits laitiers, mais également les œufs, également le miel, alors que le vegan pur et dur...
C'est le végétalien, c'est la même chose ?
D'un point de vue alimentaire, c'est la même chose. Je ne parle pas des choses non alimentaires, mais vegan et végétalien, d'un point de vue alimentaire, c'est la même chose. Et là, c'est une alimentation 100% végétale, c'est la même chose que le végétarisme, mais en plus, le végétalien s'abstient de consommer des produits laitiers et des œufs.
Et du miel.
Et du miel aussi, même si c'est un sujet un petit peu marginal.
Et le véganisme, ça déborde le végétalisme, c'est une philosophie beaucoup plus large.
Oui, parce qu'elle inclut également les produits non alimentaires. Donc le végan ne va pas porter de fourrure, de cuir, il va éviter de porter de la laine. Il va utiliser des produits cosmétiques non testés sur les animaux, si possible, etc.
Et le flexitarisme, on l'a dit, c'est un mot valise qui unit flexible et végétarien et qui limite donc sa consommation de viande et de poisson. Boris Ancel, la France compte relativement peu de végétariens, on l'a vu, de plus en plus de flexitariens. D'un point de vue sanitaire, que nous disent globalement les études de l'ANSES ? On va y revenir précisément, mais grosso modo, est-ce que les végétariens et les végétaliens et aussi les flexitariens, est-ce qu'ils se portent en meilleure santé que la population générale ?
D'abord, il faut dire qu'ils ne se portent pas en moins bonne santé. Je pense que c'est important de le dire. On peut être végétarien et même végétalien et en parfaite santé. Et il y a eu énormément d'études. Alors la difficulté, c'est que ce sont des études observationnelles la plupart. C'est-à-dire que vous observez, vous regardez les personnes qui ont un régime végétarien ou qui consomment ou végétaliens, etc., différentes sortes de végétarisme plus ou moins strict, et vous regardez est-ce qu'ils développent plus ou moins de maladies. C'est compliqué parce que les personnes qui choisissent d'être végétariens sont aussi des gens qui vivent différemment. On constate qu'ils ont un mode de vie plus sain, ils vont plus chez le médecin, ils font plus attention à eux, ils font plus d'activité physique. C'est toujours difficile de dire que c'est clairement le régime qui les protège. Mais on a un certain nombre de pathologies qui semblent moindres chez les personnes qui ont un régime végétarien, en particulier les maladies cardiovasculaires. Le diabète.
De type 2.
De type 2, absolument, qui est lié vraiment au mode de vie. Et avec un niveau de preuve plus faible, selon l'ANSES, qui a fait récemment une revue de la littérature assez exhaustive du sujet, peut-être un risque plus faible de cancer. En revanche, là où il y a une petite... pas une alerte, mais une attention, c'est sur l'ostéoporose. Mmh. Plus de risque de fracture osseuse. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, on peut dire qu'en tout cas, on n'est pas en moins bonne santé et peut-être on est un peu en meilleure santé.
Docteur Jérôme Bernard Pellet.
Oui, ce sont des choses qu'on sait depuis déjà une vingtaine d'années, mais la littérature scientifique, elle s'étoffe et elle permet un peu de confirmer ce qu'on savait déjà. Et oui, vraiment, on est vraiment sorti du paradigme il y a 20 ans. Où on pensait que c'était vraiment difficile d'être végétarien, qu'on allait avoir des carences, qu'on allait peut-être mettre sa santé en danger. Et là, maintenant, on sait que, au pire, on fait jeu égal, au pire, voilà, c'est viable. Et au mieux, il y a de réels bénéfices pour la santé, et même carrément sur la mortalité, toutes causes confondues. Parce que là, le rapport de l'ANSES également en parle. Maintenant, on a des études qui montrent qu'on vit plus longtemps si on est végétarien ou vegan que si on a une alimentation plus classique, à condition, bien sûr, que cette alimentation soit bien menée.
Et on reviendra tout à l'heure sur ces recommandations de l'ANSES. Et vous, Stérel Payani, vous esquisserez tout à l'heure une brève histoire du végétarisme. Vaste tâche. Le programme de votre chronique Quoi de neuf, docteur Boris Ancel ?
Moi, je vous apprendrai et je vous l'apprendrai, c'est promis, à évaluer l'âge de vos artères.
Oula.
Parce que c'est pas, Ali, parce que vous semblez très jeune, que vos artères sont très jeunes. Et je vous dirai comment savoir.
Vous m'inquiétez.
France Inter. Donc, vous trouvez pas que ça sent bizarre ? Ça sent la poubelle ? Grand bien vous fasse. Benet sont dehors.
Excusez-moi, c'est du tofu. Protéines végétales à base d'algues. C'est très sain, moi je suis végétarienne. Faut quand même que je compense pour les protéines.
Allez, Rébéi.
Et Angèle Ferremag, on précise, c'est un extrait de Mes meilleurs copains, que le tofu, c'est à base de soja.
Exactement.
Et pas d'algues.
Et non.
Et ce matin, on s'intéresse donc aux bienfaits de la cuisine végétarienne. Estherelle Payani, et si vous tentiez, allez, là, une très brève histoire, incomplète, évidemment, du végétarisme, qui puise ses racines dans l'histoire des religions, et plus précisément dans le jardin d'Éden. Adam et Ève sont végétariens avant l'heure.
Et avant le déluge, en effet, même si c'est la pomme qui est responsable de tout, c'est peut-être le ver dans la pomme. En effet, ce n'est qu'après le déluge, dans l'Ancien Testament, que Dieu permet à l'homme de manger de la viande. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte.
Genèse, chapitre 3, verset 3. Chapitre 9, verset 3.
Donc voilà, ça remonte à après le déluge. Après, on a des traces de ces pratiques de non-violence et de respect de vie dans l'ahimsa indienne, qui est une notion philosophique qui va après se retrouver dans l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme, en effet. Petite ellipse, on va plutôt aller du côté de nos amis latins et grecs, car c'est quand même un sujet qui les intéressait beaucoup, avec Pythagore, qui n'était pas que mathématicien, était aussi philosophe, et lui, il a vraiment développé la pensée de la transmigration des âmes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas manger un être vivant, car les âmes voyagent de corps en corps. Il interdit à ses élèves de manger la chair animale, des œufs au nom de ce principe, mais aussi de porter de la laine. La légende dit aussi qu'il l'interdisait de manger des fèves, parce qu'il pensait que les fèves étaient le refuge de l'âme. Donc il est mort d'avoir refusé de traverser un champ de fèves. Conclusion, pendant de très nombreuses années, jusqu'au 19e en France, on appelait les personnes végétariennes des pythagoriciens.
Des pythagoriciens.
Ouais, c'est un mot qu'on retrouve beaucoup en fait. Et petit à petit, la pensée végétarienne, elle continue à travers toute l'Antiquité à se développer. Et c'est vu comme une sorte d'âge d'or aussi de l'Antiquité par Hésiode, mais on le trouve aussi chez Platon comme mythe. La pensée végétarienne, après, elle va plutôt partir vers l'Asie mineure, qui développe encore, au IIIe siècle, toute la pensée de Plutarque. Mais au moment où la christianisation de l'Europe a lieu, la pensée végétarienne, qui est vraiment liée à cette idée, non pas de paradis ou d'enfer, mais vraiment d'âme qui continue et de réincarnation, ça régresse très fortement. Et c'est même lié à des minorités religieuses jugées hérétiques, comme les cathares, notamment, qui ont été végétariens. Et ça part plutôt, vraiment, ça se concentre vers l'Inde, où là, la pensée végétarienne se développe de façon très intense, avec plusieurs interdictions qui peuvent aller, par exemple, chez les jaïnes. Il y a certes l'interdiction de l'œuf de miel, mais aussi des légumes racines, de l'ail et des oignons.
Ah oui.
C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Après, en Occident, c'est des voix très minoritaires. Il y a Léonard de Vinci, par exemple, qui est un des végétariens les plus connus, qui a écrit dans ses lettres, on retrouve plusieurs références à ça. Et même dans les ordres par vœu de pauvreté, les cisterciens et les chartreux, par exemple, eux, ils consomment du poisson, mais les trappistes sont végétariens. C'est plus par vœu de pauvreté que par engagement moral, à chaque fois. Là, on arrive au XVIIe siècle, où en France, effectivement, on est à fond dans l'élevage, le pâturage, et toute notre agriculture est façonnée autour de ça, et même la pensée philosophique, parce que pour Descartes, c'est vraiment l'idée de l'animal-machine. Donc, comme c'est quelque chose de fonctionnel, ben, on peut s'en servir. Et en France, le végétarisme à cette époque, ça n'existe pas. Par contre, c'est du côté des Anglais qu'il faut regarder. On va traverser la Manche, puisque eux, ils étaient très en contact avec l'Inde. Et là, la pensée s'est vraiment, vraiment, vraiment développée, avec John Oswald notamment, qui a écrit un témoignage qui a vraiment marqué les écrivains romantiques après ses séjours en Inde. Conclusion, en Angleterre, on crée la Vegetarian Society en 1847. Alors qu'en France, l'association végétarienne ne sera créée qu'en 1994.
Ouais.
Voilà, la différence de 150 ans, elle explique beaucoup de choses, je trouve. Et après, c'est le développement qu'on a connu. Moi, j'ai vu une vraie différence entre les premières fois où j'ai fait un livre de cuisine où il y avait un repas végétarien, où j'avais eu plein de remarques, et puis cet ouvrage où on a vraiment vu une différence sur la façon d'aborder le sujet.
Angèle Ferremag.
C'est intéressant parce que depuis le début de l'émission, on évoque les différentes raisons d'être végétarien. Parce qu'en fait, on peut l'être pour un concept éthique et parce que les animaux, on estime que ce sont des amis, des comparses. On peut l'être aujourd'hui pour des raisons écologiques, on se rend compte de l'urgence écologique, mais aussi pour des raisons de santé. Donc en fait, il y a plusieurs biais, où évidemment ça peut être tout en même temps, mais on peut approcher le végétarisme par plusieurs angles.
Alors dans notre pays, il me semble que la cuisine végétarienne souffre encore auprès d'une partie de la population d'une image assez tristounette. Que dites-vous à toutes celles et ceux qui réduisent la cuisine végétarienne à un combo tofu, quinoa, graines germées, Esther El Payani?
C'est pas pire que manger du steak et des patates à tous les repas. Pour moi, c'est une histoire de diversité, de variété. Dans végétarien, les gens pensent qu'il n'y a rien, alors qu'il y a tout ce qu'ils ne mangent pas d'habitude, parce qu'on mange en général très peu varié.
Et c'est vrai qu'il y a une histoire culturelle, parce que on a l'habitude, et c'est tellement simple de mettre un steak sur une poêle, de mettre un poulet au four, tandis que là, en fait, cuire de mille façons différentes, et puis surtout on a un nouvel alphabet, rien que le quinoa, il existe le noir, le blanc, le rouge, le beige, les riz c'est pareil, le sarrasin, le millet. En fait, tout d'un coup, on a un alphabet énorme de graines, de céréales, de fruits et de légumes, et d'herbes aromatiques, qui nous permettent des mélanges pas possibles, un arc-en-ciel dans l'assiette.
On peut jongler avec une vraie variété qui manque souvent, ne serait-ce que de couleurs, de goûts, et puis de types de cuisine. On peut aller piocher dans plein de cuisines du monde entier.
Ce qui est intéressant dans votre livre, Esther El Payani, ce sont les techniques, notamment de préparation de légumes. C'est pas anodin, parce que plus on maîtrise les techniques de nettoyage, de préparation, de ciselage, de découpe, de cuisson, et bien là on se sent pousser des ailes et on devient plus créatif.
Aussi, le simple découpe du légume change son goût. Un chou rave coupé en bâtonnets, ça n'a pas du tout le même goût que des pétales de chou rave préparés avec une mandoline. Quand on prend l'habitude de cuire, on n'est pas forcé de tout cuire à l'eau bouillante à l'anglaise. Ça va marcher pour certains légumes. Par exemple, le haricot vert, quand il est cuit comme ça, il peut être extraordinaire. Mais vous faites des endives avec ça, c'est vrai que ça a tout de la punition. Il y a beaucoup de légumes qui méritent d'être traités de façon très différente. Un pois chiche juste en salade ou un pois chiche grillé au four avec plein d'épices, pour moi, c'est pas du tout le même produit.
Angèle Ferromag.
Oui, exactement. On peut, en fait, dans cette histoire de cuisson, je trouve ça très intéressant parce que, en effet, il y a mille façons de cuire de façon saine, en évitant la friture et le barbecue, des légumes. Et par exemple, certains légumes qui contiennent de l'eau, comme les petits pois frais là qu'on a, un peu à l'étouffer, peuvent cuire dans leur propre eau. Et ça renforce les sucres, les goûts. Enfin, il y a mille façons de faire.
Et puis la cuisson vapeur également, Esther El Payani.
C'est extrêmement pratique, la cuisson vapeur, parce que c'est puissant, ça va vite, en fait. Et puis après, tout est
dans
l'assaisonnement.
Ça va plus vite qu'on ne le croit, parce que il y a quelques temps de cuisson à la vapeur dans votre livre, Esther El, les asperges blanches ficelées en bottes, c'est 20-25 minutes, évidemment, selon le diamètre, et peut-être un petit peu moins si on les veut un petit peu al dente. Les carottes en rondelles, c'est quoi? C'est 15-20 minutes, pas plus.
Alors ça dépend, si c'est les petites jeunes carottes, ça va cuire plus vite. Là, quand c'était l'hiver, c'est des carottes plus épaisses.
Les courgettes, 8-10 minutes. Les haricots verts, 12 à 15 minutes. Les pommes de terre, 15-20 minutes.
Oui, ça va. C'est vraiment aussi, quand on est pressé, on coupe en morceaux plus petits. Et avec la vapeur, on peut les cuire de façon plus rapide. On joue là-dessus. Mmh. Et puis c'est un équipement qui est quand même très léger. Un simple panier en bambou, ça peut être une marguerite. Et même, moi j'ai déjà fait quand il n'y avait rien, avec une passoire et un couvercle dessus. C'est assez low-tech la cuisine végétarienne aussi.
Angèle Ferromag.
Oui, c'est vrai qu'on...
On peut aussi cuire des aliments comme des pâtisseries, à la vapeur. On peut faire des tas de choses à la vapeur. On peut cuire des volailles, on peut faire des tas de choses.
La vapeur, c'est assez exceptionnel parce que, en effet, on peut faire même des œufs mollets. Oui. On peut réchauffer, si on évite le micro-ondes, dans un Tupperware en verre, par exemple, on peut réchauffer tous nos plats. On peut faire c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais de la viande, du poisson. Tous les légumes au monde. Et puis même, ce que j'aime bien faire, moi, c'est que dans le bac du bas, là où il y a l'eau, mettre les céréales ou les légumineuses. Donc en fait, en 15 minutes, j'ai un repas pour 5 qui est prêt très, 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 très rapidement et efficacement.
Oui, alors moi, dans le bac du bas, en fait, quand il y a l'eau, j'utilise l'eau bouillante pour aller éradiquer. Non, quand elle est bouillante, les mauvaises herbes dans le jardin, là, sur ma dallage, hop, 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 ça s'est recyclé comme ça.
Très, très bonne idée. Alors, professeur Boris Ancel, docteur Jérôme Bernard Pellé, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, a donc donné ses recommandations concernant l'alimentation végétarienne. Globalement, on l'a dit tout à l'heure, le végétarisme et le régime végétarien peuvent être bénéfiques pour la santé, à condition d'être suivi de façon équilibrée. L'ANSES s'était auto-saisi pour faire un état des lieux des connaissances en se basant sur une revue de 131 publications. Alors, ce que dit tout de même l'ANSES, c'est qu'un régime végétarien, professeur Boris Ancel, ne doit pas être adopté à la légère. Hein.
Non, c'est-à-dire que, surtout s'il est végétalien, mais plus vous réduisez les produits d'origine animale, plus il faut être attentif. Globalement, on doit être attentif à l'apport en protéines, parce qu'évidemment, les protéines sont plus facilement apportées par des produits d'origine animale, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les apporter par des produits d'origine végétale. C'est pour ça que la recommandation, c'est d'être particulièrement attentif à apporter des légumes secs, les légumineuses, qui sont des très bonnes sources de protéines. Hein, souvent, on les oublie, mais je pense que nos deux expertes là en cuisine ne les oublient pas. Et là aussi, il y a toutes les couleurs. Hein. Voilà, donc 75 grammes par jour si vous consommez malgré tout des produits laitiers et des œufs, et 120 grammes par jour en moyenne si vous êtes végétalien, parce que c'est vraiment une manière d'apporter des protéines. Ensuite, les oléagineux, qui vont être également source de nutriments dont on peut manquer si on a peu de produits d'origine animale. Et attention également à la vitamine D qui peut poser problème. Chez les végétaliens, là où il y a une alerte particulière, c'est la vitamine B12. Et là, en principe, on va supplémenter parce que c'est très compliqué d'apporter de la vitamine B12 par des produits d'origine purement végétale.
Docteur Jérôme Bernard Pellé.
Oui, effectivement, je confirme tout à fait ce que dit mon confrère. Par contre, je ne pense pas que ce soit très difficile d'assurer son besoin en protéines. En fait, il suffit de manger à sa faim et l'idée comme quoi les protéines animales sont supérieures aux protéines végétales.
Et maintenant, et puis quand on est végétarien, on peut manger des œufs.
Tout à fait, oui, les produits laitiers aussi, qui contiennent des protéines.
C'est vrai que c'est important de préciser, on a souvent dit, seules les protéines d'origine animale sont qualitatives. Et en fait, on voit bien que les personnes qui consomment des produits d'origine végétale en quantité suffisante n'ont pas de problème de santé. Donc, il y a la question de la qualité, la question de la quantité. La question de la qualité, je crois qu'on ne peut pas justifier un régime animal, entre guillemets, par la qualité des protéines. En revanche, la quantité peut poser problème si vous ne consommez pas de légumineuses et pas de produits laitiers. On peut, sans produits laitiers, mais à ce moment-là, attention aux légumineuses.
Angèle Ferremag.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est consommé dans les pays de riches, la viande, la chair animale. Et on retrouve partout dans le monde ce mélange céréales-légumineuses, et le monde entier n'est pas carencé. Donc,
un exemple de bon mélange.
Maghreb, par exemple, il y a le couscous avec des pois chiches et de la semoule. Au Brésil, il y a la feijoada avec le haricot rouge et le riz. En Asie, on a beaucoup le riz et le soja aussi.
Oui, même en Italie, quand on fait pasta fagioli, ça marche aussi. Mais c'est assimilé à des pâtes cuites avec des haricots borlotti.
Oula.
Un peu. Mais même dans le minestrone, ça c'est la même alliance. Nous, ça nous fait bise. On se dit, ça va être lourd. En fait, ça passe très bien.
Ou les pâtes aux pois chiches aussi.
Bah, fabuleux, j'adore.
Oui, juste un point. Alors, c'est bon d'associer les deux. Souvent, on a dit qu'il fallait absolument associer les deux. Aujourd'hui, on est revenu sur cette idée-là. Donc on peut consommer du riz à un repas et des haricots rouges à un autre repas. Cela dit, ce que vous proposez comme plat complémentaire, c'est peut-être meilleur.
Alors d'après cette revue de la littérature scientifique réalisée par l'ANSES, les végétariens présentent un risque plus faible de développer certaines maladies comme certains cancers, prostate, estomac, sang, certaines maladies gastro-intestinales comme la maladie diverticulaire ou encore la cardiopathie ischémique. Alors attention, sur le cancer, faut faire attention, le poids des preuves est relativement faible, Boris.
Oui, faut toujours faire attention au niveau de preuves. Encore une fois, comme on l'a dit avec mon confrère tout à l'heure, on ne peut pas affirmer la causalité. On ne peut pas dire « manger végétarien pour une meilleure santé ». On n'a pas de preuve que si vous changez juste ça dans votre mode de vie, vous allez être en meilleure santé. Cela dit, il y a pas mal de choses dans le régime végétarien qui peuvent expliquer un bénéfice, et en premier lieu, je dirais, l'apport de fibres, dont on sait de manière consensuelle l'intérêt pour se prémunir contre beaucoup de maladies chroniques.
Docteur Jérôme Bernard Pellet.
Oui, si on adopte une alimentation végétarienne, on peut espérer une baisse des cardiopathies ischémiques de 25%. On va rappeler ce que c'est des cardiopathies ischémiques. En fait, c'est une baisse des infarctus du myocarde. Les artères coronaires, qui sont les artères qui irriguent le cœur, ont tendance à s'altérer, se boucher avec le temps. On appelle ça l'athérosclérose. Et là, vraiment, depuis 30 ans, on a des études vraiment constantes que l'alimentation végétarienne, même végétalienne, protège les artères coronaires du cœur.
Et concernant les pathologies cardiovasculaires, une alimentation végétarienne régulière réduit la pression artérielle systolique et diastolique de façon assez significative, si l'on en croit 15 essais randomisés et contrôlés.
Oui, c'est connu depuis les années 80. Les toutes premières études ont été dans les années 80. C'est des études italiennes qui ont montré ça et puis qui ont été confirmées par la suite. Donc effectivement, non seulement l'alimentation végétarienne et végétalienne est efficace pour diminuer les risques d'hypertension artérielle, mais aussi de d'autres facteurs de risque cardiovasculaire comme l'obésité, l'excès de cholestérol.
Comment ça s'explique du point de vue de la baisse de la tension artérielle?
C'est multifactoriel, mais par exemple l'alimentation végétarienne a tendance à être plus riche en potassium, et on sait que le potassium, ça fait baisser la tension, mais aussi ça s'explique par la présence de phytonutriments. On parle beaucoup des aliments transformés. Le gros problème des aliments transformés, c'est qu'on va détruire des sortes de médicaments naturels qu'on appelle les phytonutriments, qui sont ni des vitamines, ni minéraux, ni des protéines, c'est à part. Et ces sortes de médicaments naturels, certains font baisser la tension artérielle, mais c'est pas un seul. On a essayé d'isoler la substance qui faisait baisser la tension artérielle, ce sont des échecs. En fait, c'est un cocktail de substances qui a cet effet.
Et professeur Ancel.
C'est très important quand on dit le régime végétarien réduit un certain nombre de paramètres, de dire par rapport à quoi. C'est-à-dire que dans les études dont on parle depuis tout à l'heure, ce sont des études qui comparent, donc à l'échelle épidémiologique, régime végétarien par rapport à un régime occidental traditionnel. Ce qui n'a pas été fait, c'est régime végétarien versus régime méditerranéen, dans lequel il y a des produits d'origine animale. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est par rapport à un régime occidental, dans lequel on va avoir des aliments ultra transformés, des viandes grasses, etc., ce régime végétarien est certainement bénéfique. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, ça veut dire que si vous voulez pas manger végétarien, et je crois que chacun a le droit de faire comme il veut, vous pouvez aussi avoir une alimentation saine avec une alimentation type régime méditerranéen ou régime DASH, dont on a déjà parlé, ou flexitarien, à condition d'améliorer la qualité de votre prise alimentaire. Donc c'est régime végétarien versus par rapport à un régime occidental moderne dans lequel il y a beaucoup de choses dont il faudrait limiter la consommation. Mais ça veut pas dire qu'il faut absolument manger végétarien pour être en bonne santé. C'est ça ce qui est super en nutrition, c'est qu'on a plusieurs manières de modifier son alimentation pour préserver sa santé.
Docteur Bernard Pellet.
Alors, en fait, on a des modèles mathématiques pour contrôler ce qu'on appelle les facteurs confondants. Les facteurs confondants, ce sont des facteurs qui créent un biais dans l'étude et qui montrent un résultat qui n'est pas un résultat réel, qui est un résultat fictif. Donc, on voit un tout petit peu, je suis d'accord globalement avec mon confrère, mais dans nos études, on essaye de faire abstraction de tous les paramètres qui pourrait créer des différences dans les deux groupes. Donc je pense qu'il y a vraiment un réel effet du végétarisme. Après, au-delà du végétarisme, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des aliments bons pour la santé. Voilà, il faut le rappeler, on ne mange pas assez de légumes, on ne mange pas assez de fruits, ça fait un peu cliché. Mais c'est vrai, les fruits et légumes, ce n'est pas un mythe, mais pas simplement. Également, on a parlé des oléagineux, noix, noisettes, amandes, les graines. Les légumineuses, c'est extrêmement important. Haricots secs, pois chiches, on n'en mange pas assez, c'est extrêmement important pour rester en bonne santé. Également les herbes aromatiques, les champignons, et ces aliments, il faut en manger plus, quel que soit le régime alimentaire. Si on mange plus de ces aliments, on va être en meilleure santé.
J'aimerais qu'on s'arrête, Esther El-Payani, sur les légumineuses. Ça peut freiner l'idée de préparer des haricots blancs, des pois chiches, les faire tremper, etc. On ne sait pas comment les cuisiner. Et puis on a peur aussi de désagréments, il faut le dire, gastro-intestinaux, comme les flatulences. Oui, il faut le dire. Donc, y a tout ça, ce sont des freins quand même. Hein.
Oui, il y a des freins à l'usage, mais quand on a envie, on trouve des solutions. Ouais. Déjà, la conserve, c'est très facile d'avoir sous la main une boîte de pois chiches déjà cuits,
de flageolets ou de haricots.
Donc, à condition de les égoutter, bien les rincer, c'est prêt à l'emploi. Après, quand on pense à les faire maison pour les cuisiner, on peut les cuisiner en grande quantité et puis à les faire avec une cocotte minute. Moi, je reconnais que l'autocuiseur, sur ces produits-là, notamment les haricots, les pois chiches, c'est un gain de temps énorme. Moi, parfois, j'en fais cuire une certaine quantité, je les portionne et je les congèle dans certains cas.
Le principe concernant les haricots blancs, par exemple, ou les pois chiches, c'est de les faire tremper la veille, c'est
alors,
ça? Avec un peu de bicarbonate de soude, ou pas?
On peut ou pas le bicarbonate, mais c'est vrai que le trempage permet d'éliminer une partie des substances qui les rendent non digestes, mais ça permet aussi de réduire le temps de cuisson, puisque une légumineuse, c'est une graine. Si on plante la plante dans la terre, elle va pousser. Donc, dedans, il y a des substances qui sont germinatives, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc, bien les faire tremper, les rincer plusieurs fois.
Docteur Bernard Pellet, parmi les bienfaits de l'alimentation végétarienne, les études montrent un risque plus faible de diabète de type 2. Comment expliquer ce risque plus faible de diabète?
Alors, c'est probablement à cause d'une plus grande pauvreté du régime végétarien en graisses saturées. Voilà, c'est pas que les sucres. Bien sûr, les sucres, c'est un facteur majeur du diabète, mais pas que, il y a d'autres effets. Et donc, on pense que, en fait, les graisses saturées vont perturber les récepteurs à l'insuline. Et donc, si on mange une alimentation qui est plus pauvre en graisses saturées, ce qui est le cas d'une alimentation végétarienne, du coup, ça va vraiment avoir un effet plus positif.
Les graisses saturées que l'on retrouve notamment dans les viandes.
Voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est vraiment l'effet le plus puissant. C'est le diabète du type 2 qui est le plus prévenu par une alimentation végétarienne.
Boris Ancel ?
Oui, je pense que c'est un ensemble de données. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est tel ou tel paramètre. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que si on expliquait ça uniquement par la baisse des graisses saturées, ça serait pas le végétarisme. Parce que vous pouvez être végétarien et prendre de l'huile de palme, l'huile de copra, l'huile de noix de coco et, finalement, ce sont aussi des graisses saturées. Donc, évidemment, on en mange moins parce qu'on va manger moins de viande, moins de charcuterie. Mais c'est difficile de dire que c'est que ce paramètre. Et en fait, on n'a aucun élément pour dire que c'est ça ou ça. Mais globalement, oui, un mode de vie plus sain. Et un mode de vie plus sain, c'est moins de diabète de type 2. Ça, c'est imparable.
Et sur le cholestérol, 30 essais montrent que par rapport au groupe omnivore, l'alimentation végétarienne abaisse les taux sanguins de cholestérol total et de LDL cholestérol. En revanche, aucune différence significative sur les taux de triglycérides.
Alors, ça s'explique très simplement. En fait, le cholestérol n'existe pas dans le règne végétal. Le cholestérol, c'est une exclusivité du règne animal. Donc, on va trouver du cholestérol dans la viande, dans la volaille, dans les œufs, dans les produits laitiers, mais il n'y en a pas dans les végétaux. Donc, forcément, si on ne mange pas du cholestérol, ça va aider à sa baisse. Alors que pour les triglycérides, le triglycéride, c'est l'alcool et le sucre. Les végétariens, ils boivent de l'alcool, certains en tout cas, mangent du sucre. Donc là, il n'y a pas d'effet sur les triglycérides.
Là, c'est plus facile d'expliquer. Dans le régime végétarien, vous avez les quatre choses qui sont bien connues. Baisse des graisses saturées, d'origine animale, l'augmentation des fibres, en particulier les fibres solubles. Vous mangez de l'avoine, vous mangez différents fruits et légumes qui contiennent des fibres solubles. Vous mangez des oléagineux, et là il y a un effet connu, très connu sur le cholestérol. Et puis quatrièmement, pour celles et ceux qui mangent du soja, le soja a un effet. Donc on a les quatre facteurs qu'on connaît comme les plus puissants pour baisser le cholestérol.
Un mot, parce que ça revient pas mal ce matin dans vos messages et courriels, un mot sur les carences en fer, le fer héminique qui est présent dans la viande rouge et dans une moindre mesure dans les œufs ou la volaille, sur les carences en fer, le fer indispensable au transport et à l'utilisation de l'oxygène par les globules rouges ainsi qu'au fonctionnement de certaines enzymes.
Alors oui, probablement que le fer est un peu plus difficile à trouver dans une alimentation végétarienne, mais c'est largement faisable. Le problème du fer, c'est peu lié à l'alimentation, c'est surtout lié aux pertes. Donc on trouve beaucoup plus de carences en fer chez les femmes à cause des menstruations, beaucoup plus rarement chez les hommes. Et c'est très individuel, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des personnes qui mangent suffisamment de fer et qui sont pourtant très souvent carencées en fer, et puis d'autres D'autres, jamais, voilà. Et donc, faut pas hésiter à utiliser des suppléments. Si vous êtes carencé en fer, ben, vous supplémentez. Et voilà, c'est pas tellement, c'est un petit peu lié au rejet alimentaire, mais pas, c'est pas un sujet vraiment majeur.
Et surtout, il faut qu'on arrête de dire aux gens de manger de la viande rouge pour augmenter leur stock en fer. Ça, je me bats contre ça. Ça, c'est un mauvais message.
Et puis,
il y a des techniques aussi végétariennes qui sont intéressantes pour consommer du fer. Évidemment, les lentilles, ce genre d'aliments.
Mais associé notamment à la vitamine C.
À la vitamine C, exactement, dans le persil, dans le kiwi. Donc, consommer un peu plus de vitamine C. Et puis, peut-être un peu moins d'éléments qui font partir
le fer,
comme le thé vert, le café, etc. Tous les tanins.
On peut boire du thé, hein, simplement.
Si vous prenez si vous buvez du thé à proximité d'un repas riche en fer, il va y avoir des pertes.
Surtout s'il y a des grands buveurs de thé, c'est surtout ça hein, qui peut poser problème.
Esther El Payani.
Pour renforcer ce que disait Angèle sur la vitamine C, il n'y en a pas que dans les fruits, hein, dans les légumes par exemple, la source numéro 1 c'est le poivron.
Ah oui.
Eh oui, le poivron, c'est avec ça qu'on a d'ailleurs découvert la vitamine C à l'origine.
Allez, 10h45, il est l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf docteur du professeur Boris Ancel.
Voilà, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Alors, Boris Ancel, comment évaluer l'âge de nos artères?
Alors, ce n'est pas marqué sur votre carte vitale, mais vos artères ont bel et bien un âge. Et parfois, elles sont plus vieilles ou plus jeunes que vous. C'est ce qu'on appelle l'âge de vos artères. Et ce chiffre peut tout changer si vous le connaissez. Parce qu'on peut avoir 45 ans, en bonne santé apparente, mais des artères de 70 ans, rigides, fragiles, sans le moindre symptôme jusqu'au jour où ça casse.
Pas du tout anxiogène cette chronique. Et cet âge artériel, Boris Ancel, on peut vraiment le connaître?
On va vous apprendre à rajeunir, Ali. Vous verrez qu'à la fin, vous serez plus anxieux. Il y a effectivement une méthode. La plus directe, c'est de mesurer la vitesse de l'onde de pouls. La VOP.
Ah, je ne connaissais pas.
Voilà, la VOP. À chaque battement, votre cœur envoie une onde de pression dans les artères. Si ces artères sont jeunes, souples, alors cette onde se propage lentement. Si elles sont rigides à cause de l'âge, du tabac, de la tension artérielle, d'un excès de cholestérol ou d'autres facteurs moins connus, eh bien cette onde va plus vite. Donc plus la VOP est rapide, plus vos artères sont âgées. Et ça, ce n'est pas juste une idée séduisante. Une grande méta-analyse qui regroupe beaucoup d'études publiées dans le Journal of the American College of Cardiology qui a analysé des données de plus de 17 000 personnes. Absolument, et qui montre qu'à chaque augmentation d'un mètre par seconde de la VOP, eh bien, on augmente le risque d'événements cardiovasculaires de 7%.
Et c'est un test qu'on peut faire facilement?
Alors, on le trouve de plus en plus dans certains cabinets spécialisés, chez des cardiologues. C'est tout à fait indolore, rapide, avec des capteurs que l'on pose sur les bras et la jambe, et les jambes. Et ce chiffre, la vitesse de propagation, elle peut ensuite être convertie en âge artériel. Attention toutefois aux objets connectés grand public, à certaines balances, tensiomètres, qui sont vendus simplement au public et qui prétendent mesurer l'âge de vos artères. Alors, ça utilise des algorithmes inspirés de la VOP. Il y a quelques validations scientifiques, mais dans des conditions très contrôlées. Et ces dispositifs sont pas faits pour évaluer précisément votre âge et votre risque cardiovasculaire. Certes, ça peut nous alerter, nous motiver, mais ça remplace pas un vrai bilan médical.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas accès à ce test, quelles sont les alternatives?
Il y en a, effectivement, une alternative tout à fait validée, basée sur les données de santé, notamment le score QRISC3. QRISK3, ça intègre des données comme votre âge, votre tension, cholestérol, mais aussi d'autres facteurs souvent oubliés, les migraines, les maladies inflammatoires, des troubles de santé mentale, des traitements en cours. C'est un outil validé qui a été pensé pour être utilisé par tout médecin qui connaît bien votre profil médical. Et il existe aussi une version simplifiée, gratuite, intitulée « Visage des artères ». Vous y entrez quelques données, dont l'âge, la tension, cholestérol, tabac, diabète, et vous obtenez votre âge artériel estimé. Alors, c'est pas un diagnostic, mais c'est un excellent...
Ça donne une idée.
Absolument, point de départ pour déclencher une vraie prévention. Alors, si vous découvrez que vos artères sont plus jeunes que vous, vous allez frimer. Bon, mais si vous découvrez qu'elles sont plus vieilles que vous, faut pas paniquer. Vos artères peuvent retrouver de la jeunesse en arrêtant de fumer, en bougeant davantage, en mangeant mieux, en dormant mieux et parfois avec un traitement bien ciblé. Avec tout ça, la vitesse de l'onde de pouls peut baisser. Vos artères peuvent revenir un peu plus souples ou en tout cas se rigidifier moins vite. Franchement, connaître l'âge de nos artères, ce n'est pas une condamnation, c'est vraiment une chance d'agir.
C'est bon, on est rassuré, professeur Boris Sancel. Tous les épisodes, oui.
Et vous retrouvez les références scientifiques, bien sûr, sur le site de France Inter. Et le lien vers le calculateur accessible à tous, et encore une fois, basé sur des travaux validés scientifiquement.
Tous les épisodes de Quoi de neuf docteur sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et professeur Boris Sancel, on peut essayer également retrouver votre chaîne universitaire PUMS pour une meilleure santé.
PUMS, avec de l'information fiable et des conseils pratiques pour une meilleure santé au quotidien.
Et c'est vraiment très bien fait.
Pourquoi dans les restaurants vegan, vous nous proposez des trucs genre kebab de courgettes ou saucisses de tofu ?
Ali RBI.
Alors que si par exemple vous allez dans un restaurant de viande,
grand bien vous fasse,
ben on propose pas des carottes de mouton ou des endives de bœuf.
Oui, je sais pas.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse aux bienfaits de la cuisine végétarienne avec quelques recettes, un menu, tiens, gel Ferremag, je rappelle que vous publiez ma cuisine végétarienne chez Marabout. Une entrée, alors faites-nous rêver, avec une rémoulade de chou rave et un tartare d'algues.
Ah merci Ali, parce que personne ne croyait à mon tartare d'algues, mais c'est délicieux.
La rémoulade d'abord peut-être.
Alors la rémoulade de chou rave, vous pouvez évidemment le faire avec du céleri rave aussi. Donc vous prenez un céleri rave, un demi par exemple, vous l'épluchez bien. Et là vous allez préparer la sauce. Donc pour la sauce, vous mettez une cuillère à café de moutarde de Dijon, deux cuillères à soupe de yaourt de soja, le jus et le zeste d'un citron, et si vous avez une cuillère à café de miso. Mmh. Si vous n'avez pas de la sauce soja, ça ira très bien. Vous mélangez bien, je vous assure, hein, je vous vois là, tout serait réticent. Mais c'est délicieux. Donc ensuite, vous râpez finement votre chou, vous mélangez bien. Vous pouvez le laisser un petit peu se ramollir au frais, une demi-heure, et puis vous servez bien frais. Moi, j'aime bien mettre quelques graines de sésame ou de graines de tournesol dessus, ça ajoute du croquant.
Alors, à titre personnel, je remplacerai le yaourt de soja par du yaourt grec.
Parfait, voilà. Ou du skyr, très bien.
Tartare d'algues, c'est facile à faire, ça a l'air compliqué.
Non, c'est très simple. Il faut juste trouver ce qu'on appelle la salade du pêcheur dans les magasins bio. C'est un mélange d'algues françaises. Sinon, vous trouvez aussi des algues fraîches dans certains endroits. Donc, si vous les avez en paillettes, vous allez les réhydrater dans du jus de citron et de l'huile d'olive, par exemple. Et ensuite, vous hachez finement des échalotes, du persil plat, du gingembre. Vous pouvez mettre des câpres ou des cornichons. Un bon filet d'huile d'olive, et je vous assure que les algues réhydratées sur un petit toast bien croquant, c'est très bon, et pour l'apéro, c'est vraiment une super idée. Alors, pour remplacer les tartinades.
Je suis beaucoup plus attiré par votre plat, les aubergines laquées, avec un mélange de quinoa et de pois chiches.
Exactement. Alors, pour les aubergines laquées, donc c'est très simple, vous allez prendre une petite casserole dans laquelle vous allez verser du vinaigre, un peu de sauce soja, du sirop d'érable ou du sirop d'agave ou du miel, si vous n'avez pas, et du miso. Si vous n'avez pas de pâte miso qu'on trouve dans les magasins bio ou dans certains supermarchés, vous pouvez remplacer par du concentré de tomate pour le goût umami. Vous faites chauffer à feu doux pour que le mélange s'amalgame bien. Et là, vous lavez trois aubergines. Très simple, vous les coupez en deux, vous les striez, vous striez la chair avec la pointe du couteau sans les transpercer. Et dans une poêle bien chaude, avec un filet d'huile d'olive, vous faites revenir du côté chair vos aubergines pendant 5 à 7 minutes. Ensuite, vous les retournez, vous les nappez de votre sauce et vous disposez vos aubergines à laquer dans un plat à gratin vers le haut pendant à peu près une demi-heure à 180 degrés avec des herbes fraîches et un petit mélange quinoa, pois chiche avec de l'huile de sésame, très très bon pour les acides aminés.
Esther El Payani, votre recette, je rappelle que vous êtes l'autrice de la cuisine végétarienne chez Flammarion.
Alors moi, pour l'entrée, j'ai choisi une recette espagnole, un arroz bianco. L'idée, justement, c'est, on parlait des oléagineux, c'est une recette à base d'amandes, en fait. Donc, il suffit de faire tremper 120 grammes d'amandes blanches avec une grosse tranche de pain de campagne rassis, de l'ail selon votre goût. Alors, moi, je suis marseillaise, alors j'ai tendance à un peu abuser, mais bon, juste une gousse, hein, pour parfumer, ça peut suffire. Du vinaigre, ça, c'est important, c'est vraiment la petite touche qui va tout changer. Normalement, c'est du xérès qui a un petit goût de noisette, mais du vinaigre de cidre, ça marche très bien aussi, avec 10 centilitres d'eau, et on fait tremper toute la nuit. Ensuite, dans un blender, on mixe en rajoutant de l'eau fraîche, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Normalement, ça sert avec des gros grains de raisin blanc. C'est pas la saison. Moi, j'ai essayé en début de semaine avec des prunes. Les reines Claude, par exemple, ça marche super bien. Ça sert bien frais. Si vous êtes pressé, on peut aussi utiliser un lait d'amande ou de la purée d'amande du commerce qu'on délaie dans l'eau pour gagner du temps.
Et le plat ?
Pour le plat, alors j'ai choisi une recette provençale qui est vraiment une recette de cucina povera.
Pauvre.
Voilà, la cuisine pauvre. C'est l'imaginaire de... On n'a pas de viande, de poisson, mais là, la bouillabaisse. Il n'y a pas de poisson parce qu'elle s'est remplacée par des œufs pochés. Ouais. Donc c'est simplement une sorte de sofrito avec du poireau, de l'ail, de l'oignon, des herbes, avec de la tomate. Et puis on fait un bouillon avec du fenouil, du zeste d'orange. Dans ce bouillon très parfumé, on fait pocher des pommes de terre en lamelles. Et quand elles sont presque cuites, au-dessus, donc il va rester une certaine épaisseur de bouillon, on va pocher des œufs. Et vous servez en entrée le bouillon sur une petite tranche de pain fouetté d'ail et ensuite les pommes de terre tièdes avec l'œuf poché qui coule.
C'est pas mal du tout. Pour terminer, peut-être le message à faire passer, c'est que la cuisine végétarienne, elle nous force à être créatif. En tout cas, faut pas avoir peur de se lancer, de tester. Esther El Payani.
Ah oui, la variété, c'est la clé, la diversité. Et puis, on peut toujours recycler. Une fois que les pois chiches sont cuits, ça devient un houmous, une soupe. Et puis
après votre risotto, vous faites des arancini,
des boulettes. Il y a toujours manière de recycler, même quand c'est un peu raté au départ.
Professeur Boris Ancel, vous avez recette fétiche. Bah
écoutez, moi, elle a parlé de sofrito, donc moi
je suis toujours fan, la même que vous nous donnez, bah Boris Ancel.
Mais vous savez, moi j'aime bien savoir faire très bien
une chose.
Et voilà, le sofrito, c'est très bien, et je recommande à tout le monde le sofrito.
Vous faites comment votre sofrito?
Ah bah écoutez, de la tomate, de l'ail, des oignons, et bien sûr beaucoup d'huile d'olive. Et beaucoup d'épices. Vous faites ça, frire ça quelques minutes, et c'est extraordinaire. C'est excellent et en plus c'est la saison.
Et pas de céleri chez vous ?
Non, pas dans mon sofrito, mais je veux bien apprendre et modifier des petites choses. Vous savez, petit à petit, on peut modifier. Hein.
Merci docteur Jérôme Bernard Pellé. Merci Estherel Payani, la cuisine végétarienne. Ce très gros livre avec des techniques et des recettes, c'est publié chez Flammarion. Et merci Angèle Ferremag, ma cuisine végétarienne. Votre ABC d'air gourmand, c'est chez Marabout. Et merci professeur Boris Ancel.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.